Badania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Chaque jour, ils sont des milliers à franchir la frontière de l'espace Schengen. Plus de 400 000 réfugiés et migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée depuis le début de l'année. L'Europe est confrontée à la plus grande crise migratoire depuis 1945. La photo du corps du petit Elan sur une plage turque a suscité émotion et provoqué un sursaut. La Commission européenne a demandé aux États membres de répartir en urgence 160 000 réfugiés au sein de l'Union européenne. Tandis que les pays de l'Europe centrale, Hongrie en tête, renacle. L'Allemagne annonce attendre cette année 800 000 demandeurs d'asile, réfugiés, migrants, le défi de l'Europe. Bonjour Catherine Vittal-Levenden.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS et prof à Sciences Po Paris.
Oui.
Vous êtes une grande spécialiste d'émigration.
Je travaille sur le sujet, oui.
Depuis quelques années déjà. Pierre-Henri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de France Terre d'Asile. En deux mots, France Terre d'Asile.
Ben, c'est une organisation dont l'objet social est de travailler à la défense et à la promotion du droit d'asile, droit universel en Europe.
Louis Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé belge libéral, groupe ADLE. Vous êtes un ancien commissaire européen et ancien ministre des Affaires étrangères. Merci d'être en duplex du Parlement européen à Strasbourg. Henrik Terwede, bonjour, guten Tag.
Guten Tag.
Vous êtes chercheur et politologue à l'Institut français franco-allemand de Ludwigsburg. Merci d'être en ligne de Ludwigsburg. Alors Catherine Vittal-Levenden, on parlait de migrants il y a quelques temps et soudain le mot réfugié s'est imposé. Pourquoi cette évolution sémantique?
Parce que certains disent qu'il faut accueillir les réfugiés et pas les migrants. Ceci dit, les réfugiés sont des migrants. Parce qu'il y a une définition internationale du département de la population des Nations Unies qui dit qu'un migrant est quelqu'un qui est né dans un pays et qui vit dans un autre pays pour une durée en général supérieure à un an, même si certains débattent sur la durée. Donc les réfugiés font partie des migrants et aujourd'hui on a des gens qui sont à la fois demandeurs d'asile, de protection, mais aussi des gens qui cherchent du travail, ce qu'on appelle des flux mixtes, parfois réunis dans une même personne.
C'est-à-dire qu'on peut être à la fois un réfugié, un migrant économique.
C'est pas la même chose, parce que les uns relèvent de la Convention de Genève et les autres du droit de l'immigration, mais certains correspondent aux deux profils.
Est-ce que l'on peut dire que c'est la plus grande vague migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale? Alors on peut rappeler qu'il y a eu en 1973 les boat people vietnamiens, à partir de 89-90 les ressortissants des pays d'Europe centrale et occidentale, puis les ex-yougoslaves, et puis ce flux à partir des années 2000 venu d'Afrique essentiellement. On peut en même temps écrire une histoire de l'Europe à travers l'immigration et l'immigration.
Bien, tout à fait. Faut pas oublier qu'on a eu 12 millions de Vertrieben, ce qu'on appelait les Allemands de l'Est qui vivaient dans ce qui est devenu la Pologne, c'est-à-dire la Prusse orientale, la Poméranie, la Silésie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont venus rejoindre l'Allemagne, mais c'était pas des étrangers, c'était des Allemands qui, tout en se déplaçant, sont restés Allemands. Ensuite, on a eu effectivement les boat people, on a eu des réfugiés, notamment chiliens, on a eu également les 2 millions d'Aossiedler qui vivaient en Pologne, dans les États baltes, en Russie, qui sont venus également en Allemagne en 89-90. Donc ça n'est pas la première fois, mais en termes de réfugiés, effectivement, c'est parmi les plus grandes vagues migratoires de ce qu'on a eu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 625 000 demandeurs d'asile en Europe en 2014.
Mercredi, lors de son discours sur l'état de l'Union, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a exhorté les États membres à accueillir 160 000 réfugiés. Alors, François Hollande avait déjà annoncé que la France en recevrait 24 000. Alors Pierre-Henri, c'est beaucoup, pas beaucoup?
Écoutez, c'est un principe qui est posé, c'est un principe de responsabilité et de solidarité que Monsieur Juncker avait déjà posé d'ailleurs quelques mois auparavant, au mois de juin. Et au mois de juin, je vous rappelle, il était question de 40 000 personnes à accueillir et à répartir entre les 28 pays membres.
On est passé de 40 000 à 160 000.
Mais dès le mois de juin, nous savions qu'en réalité, ce n'était qu'un principe qui était posé. Et je rappelle qu'à ce moment-là, un certain nombre de chefs d'État sont comportés en petits comptables face à l'ampleur de la crise qui allait arriver. Et les 160 000, ce qui est nouveau dans la proposition de Monsieur Juncker, c'est que c'est un dispositif permanent et d'une certaine manière obligatoire, parce que ceux des pays de l'Union qui ne se soumettraient pas à cette répartition devraient abonder financièrement un fonds consacré à la l'accueil des réfugiés. Alors, quant à la question, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, est-ce que c'est suffisant, si la crise perdure en Syrie et dans les pays qui sont en bordure, notamment en Turquie, qui accueille 1 800 000 réfugiés, évidemment non. Et évidemment que ce chiffre ne sera pas suffisant, d'où l'importance, certes, de poser des réponses en matière d'accueil humanitaire en Europe, mais de trouver aussi les solutions aux crises qui entourent l'Europe syrienne et libyenne.
Louis-Michel, il y a une tentation de dire chez les eurosceptiques et les europhobes que cet afflux de réfugiés, chacun doit les gérer dans son coin. Alors avant de vous entendre, je vous propose d'écouter François Hollande, c'était lundi dernier.
Je reviens sur ce que nous avons à faire en Europe. La France et l'Allemagne, depuis plusieurs semaines, avec les ministres de l'Intérieur, avec les ministres des Affaires étrangères, préparent ce plan global. Il sera donc soumis au Conseil des ministres de l'Intérieur le 14 septembre prochain. Et je veux que ces orientations, si elles n'ont pas reçu l'accueil qui a permis de convaincre tous les pays, avec des règles simples mais efficaces, alors le Conseil européen devra être saisi.
Louis-Michel, je répète que vous êtes eurodéputé belge, ancien commissaire européen, ancien ministre des Affaires étrangères de Belgique. Louis-Michel, peut-on gérer ce problème en dehors de l'Europe ?
Non, je pense que, bien sûr, il y a une partie de la solution qui est en dehors de l'Europe. C'est évident que le conflit en Libye et la situation en Libye mériterait quand même que cela inspire peut-être des capacités militaires, des capacités d'intervention au niveau européen. Mais c'est un débat qu'on ne peut pas mêler à ça aujourd'hui. Je pense que l'Europe doit agir d'une seule voix, que les règles européennes d'accueil de ces réfugiés doivent être les mêmes pour tous, et qu'on ne peut évidemment pas accepter que d'aucuns, parmi lesquels d'ailleurs des pays qui ont bénéficié à une certaine époque de leur histoire de la capacité d'accueil d'autres pays européens, on ne peut pas accepter qu'il y ait sur ce plan-là une Europe à plusieurs vitesses. Je pense qu'il y a un autre élément, c'est que, heureusement d'ailleurs que M. Hollande, Mme Merkel se sont portés à l'avant-scène dans le fond de cette conception de l'accueil européen. Il y a le problème qu'il va falloir expliquer, faire de la pédagogie, ce que vous faites d'ailleurs, ce débat s'y sert à ça aussi, faire de la pédagogie vis-à-vis des populations européennes. Parce que on dit, et moi je dis ça aussi parce que ça a un effet d'entraînement. On dit qu'il y a un engouement pour les populations européennes qui montrent au travers de leurs initiatives leur capacité d'accueil. Ça n'empêche quand même que quand on voit encore toujours les sondages aujourd'hui, il y a encore du travail pour convaincre les gens que les candidats à l'asile sont des gens qui fuient véritablement la détresse, la violence, la mort. Et il faut bien expliquer ça aux gens. J'entendais Madame qui est intervenue qui parlait de... Effectivement, il y a évidemment des gens qui sont porteurs de plusieurs statuts, mais je crois que nous avons quand même intérêt à bien faire la part des choses. Aujourd'hui, il faut focaliser prioritairement tous nos efforts sur les gens qui ont droit au respect, dans le fond, des droits, du droit international et de leur protection. Et les migrants économiques, je crois qu'on devra, et on doit aussi, à un moment donné, ouvrir ce débat-là. Moi, je suis très demandeur d'ouvrir ce débat-là, mais je crois que si on mêle les deux, on va entretenir une confusion assez détestable, et on risque, bien entendu, quelque part, de pousser quand même les opinions européennes vers ce qui est la pire des choses, vers des peurs injustifiées, bien sûr. Je crois que ce qui est important pour moi, c'est que l'on crée, et la proposition Juncker, c'est quand même une avancée substantielle, c'est un mécanisme permanent et obligatoire. Pour la première fois, dans le fond, on a une proposition qui va aussi loin. Donc il faut soutenir cette proposition à fond, ça me paraît tout à fait important, et il faut que l'on crée des canaux d'accueil de ces gens, qui soient des canaux sécurisés, des canaux légaux, pour les soustraire évidemment aux passeurs et dans le fond aux truands de toutes sortes qui profitent de la détresse de ces gens.
Louis-Michel, on va évidemment revenir tout au long de cette émission sur les thèmes que vous avez évoqués. En tout cas, Angela Merkel a annoncé que l'Allemagne pourrait accueillir cette année 800 000 réfugiés. Elle a expliqué, justifié au nom même des principes qui fondent l'Europe. Angela Merkel.
Les universellen Bürgerrechte.
Les droits civils universels ont été jusqu'à présent étroitement liés à l'Europe et à son histoire, en tant que principe fondateur de l'Union européenne. Si l'Europe échoue sur la crise des réfugiés, ce lien avec les droits civils universels sera cassé. Il sera détruit. Et ce ne sera pas l'Europe que nous nous représentons. Ce ne sera plus l'Europe dont nous devons toujours aujourd'hui développer le mythe fondateur. L'Europe dans son ensemble doit avancer. Les États doivent se partager la responsabilité des réfugiés demandeurs d'asile. L'Allemagne est un pays fort. L'angle sous lequel nous devons aborder la question est « Nous avons accompli déjà tant de choses que nous y arriverons ». Notre économie est solide, notre marché du travail est robuste et même prêt à absorber de la main-d'œuvre. Je ressens de la fierté et de la gratitude en voyant comment d'innombrables personnes en Allemagne réagissent à l'arrivée des réfugiés.
Henrik Lutterwedde, l'annonce d'Angela Merkel a surpris les Européens. Est-ce qu'elle a étonné les Allemands ?
Bon, écoutez, je pense que c'était dans l'air. Hein. C'est pourquoi ça n'a pas vraiment étonné. Hein. Mais je pense que c'était salutaire dans la mesure où pendant des mois, en Allemagne, c'était un autre discours qui prévalait, qui planait un peu sur la société, se faisait jour. Vous vous souvenez de Pegida, des manifestations xénophobes.
En Allemagne de l'Est surtout.
En Allemagne de l'Est surtout, mais pas seulement. Hein. Et donc des discours de la peur qui sont répandus sans... Et puis bon, ces dernières semaines aussi, des maisons d'accueil qui ont brûlé, presque au quotidien. Et d'ailleurs, ça continue. Et donc on a pendant trop longtemps laissé faire et on n'a pas donné la riposte, une riposte y compris de la part de la classe politique. Et donc, face à ce drame et ces images des derniers jours, je pense que Angela Merkel et avec elle tous les partis politiques et tout le gouvernement s'est réveillé d'une certaine manière et a compris qu'il fallait opposer à ce discours la peur et ses calculs politiciens vraiment un langage clair donc d'accueil, mais d'ailleurs mélanger d'autres appels, hein, d'appels de règles plus strictes pour les migrants dits économiques, et aussi un appel aux Européens, donc ensemble avec François Hollande, donc appel aux Européens de régler l'affaire en commun. Mais je pense que ce discours de Angela Merkel, lui, il a surpris d'une certaine manière parce que on l'a dit souvent d'avoir une voix un peu une manière un peu comptable, gestionnaire, sans trop d'émotion. Et je pense que là, elle a vraiment trouvé le temps que beaucoup d'Allemands attendaient, y compris ceux très très nombreux dans la société civile qui sont mobilisés à la gare de Munich pour accueillir les migrants dans d'autres villes allemandes. Donc face à ce sursaut de positif de la société civile, je pense qu'il fallait bien que la politique réponde positivement. Donc c'est fait, et d'ailleurs moi aussi je trouve de la fierté et de la gratitude vis-à-vis de ce discours et de cet engagement de la société civile.
Cet élan des Allemands que l'on voit dans les gares, un peu partout à la frontière, là encore, il vous a surpris ou pas ?
Bon, écoutez, non, je pense que c'était dans l'air. Et je pense toujours que je vous dis que pendant des mois, il y avait d'autres discours et d'autres actes qui faisaient la une, qu'il y avait une majorité un peu plus calme et un peu plus silencieuse qui ne réfutait pas les réfugiés. Et d'ailleurs, dans les sondages, ça s'est bien transmis. Une majorité des Allemands est tout à fait favorable à ce qui vient d'être décédé. Et donc, je pense que ce qui était nouveau, c'est que face à ce drame, c'était vraiment le déclencheur, c'était vraiment quand c'était devant notre porte, quasiment. Enfin, en Hongrie, c'est milliers de gens. C'était un drame humain. Et là, je pense que ça a peut-être donné le déclic aux nombreux organisateurs, aux individus qui se sont mobilisés. Mais je pense qu'au fond, ça ne me surprend pas parce qu'il y avait toujours au sein de société allemande, quand même, beaucoup de mouvements, beaucoup de courants de pensée qui étaient très très favorables, des initiatives locales partout, toujours favorables et très actifs au service de l'accueil de réfugiés.
Alors, Louis-Michel nous l'expliquait, le mécanisme mis en place par la Commission européenne à travers Jean-Claude Juncker, c'est un mécanisme qui est appelé à devenir permanent. Catherine Mittol de Wenden, comment gérer cet afflux, déjà techniquement ? Alors, il y a des cols, chaque pays va recevoir un certain nombre, recevoir un certain nombre de réfugiés. C'est donc de l'ordre de 30 000 pour la France, 6 000 plus 24 000. Comment on calcule en fonction du PNB, de la population, du taux de chômage? Est-ce que ça vous paraît, disons, une mécanique stable et cohérente?
Oui, en principe, ce qui a été proposé, c'est à la fois mettre en parallèle la population totale du pays, le produit intérieur brut du pays et donc la capacité d'accueil de chacun des pays européens. Donc certains, comme l'Allemagne, vont en accueillir beaucoup, d'autres très peu, en fonction...
Mais tout le monde devra en accueillir.
...de la taille de leur population. C'est l'idée de la solidarité, c'est-à-dire chacun, en fonction de ses ressources et de la taille de sa population, doit en accueillir, mais chacun en fonction de ce qu'il peut faire en la matière. Il faut pas oublier que l'Allemagne a une longue tradition d'accueil des réfugiés. Le droit d'asile fait partie de la loi fondamentale qui est la constitution allemande depuis 1949. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a accueilli les trois quarts des réfugiés de l'Europe. Moi, je ne suis pas tellement surprise de la déclaration de Mme Merkel qui a senti le basculement de l'opinion publique dans son propre pays avec la conscience. Moi, j'étais à Berlin hier que l'Allemagne, avec cette déclaration, mais aussi avec l'acceptation, si elle existe, de la solidarité par les autres pays européens, l'Europe joue ses valeurs en réalité à travers cette affaire de réfugiés, c'est-à-dire à la fois la décision d'avoir une politique unie face à un sujet de droits de l'homme auquel ont souscrit tous les États européens qui sont tous signataires de la Convention de Genève sur l'asile, et puis précisément l'idée que l'Europe existe et qu'il faut qu'elle affirme ses principes à l'occasion de la crise qui l'entoure à travers les arrivées de demandeurs d'asile.
Alors, Pierre-Henri, techniquement, il y a aussi la mise en place de, comme on dit en français, hotspots. C'est-à-dire qu'on peut traduire par des centres d'accueil et de tri très près des frontières, par exemple en Italie, en Grèce, en Hongrie. Et puis aussi, cette idée d'avoir une liste de pays sûrs, c'est-à-dire des ressortissants de ces pays ne pourront pas justifier un titre de demandeur d'asile et de réfugié.
Oui, simplement... je pense aussi, pour suivre les propos précédents, que Madame Merkel a joué d'une façon extraordinairement habile et que sincère, mais aussi habile en dramatisant aussi la situation qu'il y avait en Allemagne, parce que je rappelle qu'à la fin du mois de juillet, il y avait 221 000 demandeurs d'asile enregistrés en Allemagne, et le chiffre de 800 000 a été calculé sur un pic d'arrivée sur 17 jours au mois d'août. Peu importe, l'Allemagne accueille beaucoup, mais ça montre aussi que quand un responsable politique pose clairement l'affirmation d'un certain nombre de valeurs, l'opinion publique suit. C'est parce que, en réalité, depuis 15 ans, les responsables politiques ont suivi les solutions les plus saugrenues, les plus grossières, et maintenant des partis populistes que aujourd'hui la population hésite sur l'énoncé de ses valeurs. Ensuite, vous me posez la question de ces centres d'accueil aux frontières de l'Europe, dénommés hotspots. C'est vrai que les eurocrates ont des mots qui, parfois, ne sont pas tout à fait adaptés. Il faut, je le pense, aux frontières de l'Europe, mettre en place des centres d'accueil, de transit, d'enregistrement et de répartition des réfugiés. C'est absolument nécessaire de le faire, mais pour cela, il faut une agence opérationnelle. Je vous rappelle qu'il y a...
Elle
est à créer. Il y a Frontex pour la surveillance, pour la sécurité qui est nécessaire, mais moi je suis pour la création d'une structure opérationnelle qui s'appelle Protect.
Alors, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps de prendre connaissance des dernières infos avant de poursuivre avec nos invités notre débat réfugiés, migrants, le défi de l'Europe. À tout de suite.
Europejskie.
Kruzymią tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe. Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles. Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Chaque jour, ils sont des milliers à franchir la frontière de l'espace Schengen. Plus de 400 000 réfugiés et migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée depuis le début de l'année. La photo du corps du petit Elan sur une plage turque a suscité émotion et provoqué un sursaut. La Commission européenne a demandé aux États membres de répartir en urgence 160 000 réfugiés au sein de l'Union européenne. Tandis que les pays de l'Europe centrale, Hongrie en tête, renâcle, l'Allemagne annonce attendre cette année 800 000 demandeurs d'asile, réfugiés, migrants. C'est le défi de l'Europe. Je vous représente rapidement nos invités. Catherine Vitol-Venden, directrice de recherche au CNRS et prof à Sciences Po Paris. Pierre Henry, directeur de France Terre d'Asile. Louis Michel, eurodéputé belge libéral, groupe ADLE, ancien commissaire européen, ancien ministre des Affaires étrangères de Belgique, en duplex du Parlement européen à Strasbourg. Et Henrik Utterwede, chercheur et politologue à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Il est en ligne de Ludwigsburg. Alors avant de reprendre notre débat, je vous propose de faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Daniel Renon.
Bonjour.
Courrier International consacre un dossier aux réfugiés, évidemment. Et Daniel, l'article qui a retenu votre attention est celui de Stern, l'hebdo de Hambourg, qui évoque bien sûr l'enthousiasme des Allemands dans l'accueil de ces réfugiés, principalement syriens. Mais au-delà, quand l'effervescence sera retombée, viendra le temps de l'intégration et ce sera une phase plus difficile.
Absolument. Pour l'instant, tout se passe bien avec une population largement favorable à l'accueil des réfugiés. Mais dans un deuxième temps, en effet, il va falloir donner des logements, apporter la formation et naturellement aussi des prestations sociales à tous ces centaines de milliers de réfugiés qui vont s'installer dans le pays.
C'est à la fois un plus et des difficultés.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on considère en Allemagne que du point de vue de social et économique, c'est bien puisque ça va combler un manque de main-d'œuvre et une démographie déclinante. Mais d'un autre côté, ça représente des prestations très importantes. Ça représente déjà des embauches. Il va y avoir en gros 1 millier d'embauches d'ici la fin de l'année pour gérer, simplement gérer les dossiers des réfugiés. Et puis ensuite, il va falloir organiser les lieux d'hébergement parce qu'ils sont insuffisants pour l'instant. Donc c'est aussi beaucoup d'investissements financiers pour l'État, les lenders et les communes. Et par la suite, il va falloir développer, par exemple, la construction, notamment de logements sociaux, parce que c'est très, très faible en Allemagne, dans les grandes villes.
Et ce sera là probablement la plus grande difficulté, car le marché de la construction est relativement atone en Allemagne.
Exactement. Dans des grandes villes comme Francfort ou Munich, par exemple, il n'y a pas plus de 1% du parc immobilier auxquels peuvent accéder les plus bas salaires, ce qu'on appelle Hartz-IV, les bénéficiaires de l'aide sociale, les familles monoparentales. C'est un secteur extrêmement concurrentiel et qui va être en concurrence entre Allemands et réfugiés étrangers, venant de l'étranger.
Alors cela dit, pour Angela Merkel, c'est un fantastique pari et peut-être qu'avec l'accueil et l'intégration de ces réfugiés, elle entrera dans l'histoire.
C'est tout à fait possible, c'est en tout cas, tout le monde le pense dans les médias allemands, c'est un défi encore plus grand que le défi de la Grèce et c'est là que va se jouer en gros son image historique.
Henrik Utterwede, on connaît le pragmatisme des Allemands, on est en train de le voir à l'œuvre. Effectivement, dans un deuxième temps, ce sera peut-être un peu plus difficile.
Bah, tout à fait. Donc, tout le monde sait que l'enthousiasme de ces jours ne pourra pas durer, qu'il va falloir vraiment entrer dans la gestion, dans le quotidien, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Mais de toute façon, la classe politique, les politiques, on s'y prépare. On est en des négociations entre le gouvernement fédéral et les Länder, et les communes d'ailleurs, pour justement comment répartir les tâches. Il va falloir débloquer entre 6 et 10 milliards d'euros. Et il y a une petite querelle, mais assez plutôt technique, entre Bund et Länder sur les besoins. Je pense que ça va se régler. Et puis pour le reste, oui, logement, c'est un grand défi. École, on calcule que dans tout le territoire, il va y avoir 1500 classes d'enfants, de réfugiés, classes spéciales pour les pour les amener à apprendre rapidement l'allemand. Et d'ailleurs, Angela Merkel, elle a mis l'accent là-dessus, que ces réfugiés qui sont arrivés, qui sont censés apprendre rapidement l'allemand, qu'on va leur donner une formation, qu'on va essayer vraiment de profiter aussi des qualifications qu'ils ont déjà. Et d'ailleurs, le patronat industriel, ou le patronat tout court, c'est lui qui pousse vers des règles plus simples afin de permettre aux réfugiés arrivés de commencer des formations, de travailler. Et donc, d'une certaine manière, oui, je suis d'accord, c'est un défi formidable pour toute la société, l'économie allemande, la politique, pour Angela Merkel aussi, parce que, d'une certaine manière, à plusieurs niveaux, on ne pourra relever ce défi qu'en bousculant certaines règles un peu bureaucratiques, trop bureaucratiques, des réglementations qui sont trop pesantes. Et ce n'est pas un hasard que Angela Merkel et d'autres font maintenant appel au pragmatisme et donc à la simplicité. Et donc je pense que on va avoir beaucoup de mini-chantiers et de grands chantiers sur le plan de la réglementation, qu'il s'agisse de la réglementation du logement. Peut-on bâtir plus rapidement, plus économe, en faisant certaines exceptions sur des règles très, très strictes, et ainsi de suite.
Merci Henrik Unterweger, on comprend bien la difficulté que vont devoir gérer les Allemands. Louis Michel, alors évidemment la décision d'Angela Merkel, elle met un peu à mal ses alliés traditionnels de l'Europe centrale et orientale. On peut rappeler que le groupe de Visegrad, qui est composé de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Pologne, sont en total désaccord avec les initiatives d'Angela Merkel. Est-ce qu'il faut s'attendre à un futur bras de fer avec ses alliés traditionnels? Et puis que dire de ces contradictions européennes, de ce clivage entre l'Est et l'Ouest de l'Europe?
Mais moi, je pense d'abord que ce qu'il faut quand même rappeler, et en vous entendant, ça me paraissait évidemment tellement éclairant, c'est que pour la première fois depuis longtemps, un leader européen fait de la politique et envoie vers les citoyens, dans le fond, un message qui porte les valeurs de l'Europe concrètement. Et elle était un peu considérée comme un leader économique, parfois un peu dur, rappelez-vous de la Grèce.
Un peu besogneuse.
Mais aujourd'hui, elle campe, dans le fond, un leader politique pour l'Europe, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et elle démontre, c'est peut-être ça le plus bel éclairage, elle démontre qu'en personnalité politique a le courage, dans le fond, de sa sincérité, et bien que l'opinion publique peut basculer en faveur de ses valeurs. Et elle prend, dans le fond, tout le monde de vitesse. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est quand même du pain béni pour ceux qui croient dans les valeurs de l'Europe. Ça me paraît quand même fondamental. Deux, bien sûr que la division en Europe, elle existe. Vous savez, moi, je suis toujours frappé qu'une grande formation politique, qui est la plus grande du Parlement européen, le PPE, mais a en son sein des gens qui représentent M. Orban et qui sont en total décalage avec les valeurs de l'Europe. C'est le même parti que Madame Merkel. Et j'espère que Madame Merkel pourra convaincre tous. Elle est en tout cas sans doute la personne qui est la mieux placée pour amener à bord les plus réticents.
C'est au passage le même parti que celui de M. Sarkozy. Au passage.
Oui, mais je ne suis pas occupé à faire le procès de ce parti. Je dis simplement que dans ce parti, vous avez des ultra-conservateurs, des sceptiques européens, et donc c'est quand même un peu embêtant. Et ce que je voulais dire, c'est que Mme Merkel est peut-être la mieux placée pour convaincre les plus réticents. Je pense que cette division, elle existe effectivement, mais je pense que si l'opinion publique, si les médias, si on fait bien, si on montre bien que ce sont des réfugiés humanitaires dont on parle, et puis après, il faudra quand même aussi, ce n'est pas l'objet de votre débat, mais il faudra sans doute aussi que les responsables européens s'attaquent à un autre problème, qui est la question de la migration, de l'autre migration, la migration économique, ça me paraît aussi utile à un moment donné d'en parler, et peut-être d'essayer d'être proactif sur le sujet, parce que on n'a pas non plus terminé avec cette question-là. Cette question-là va revenir. Et donc, c'est important. Ce qui me paraît important dans ce que j'ai entendu aussi, c'est quand même l'enjeu pour tout ce qui concerne l'intégration citoyenne de ces gens. Je pense que tout ce qui touche au parcours d'intégration, à la formation, à l'apprentissage de la langue, à des formations professionnelles, mais tout ça représente aussi, je dirais, un enrichissement pour les sociétés qui accueillent. La démarche allemande n'est pas seulement une démarche humanitaire, c'est pas seulement une démarche humaniste, c'est aussi une démarche de pragmatisme économique. Je pense que Madame Merkel a bien perçu aussi que ça n'était pas seulement une contrainte, mais que c'était aussi beaucoup d'opportunités.
Notamment parce que la démographie déclinante en Allemagne, que le marché de l'emploi est évidemment très dynamique, et puis c'est aussi peut-être le signe d'une confiance en soi, Louis-Michel.
Oui, je crois que vous avez raison, et je pense que l'opinion allemande, même ceux qui étaient réticents au départ, ça a percolé chez eux, et ça renforce aussi, dans le fond, une sorte de sentiment national, je n'ai pas dit nationaliste, une sorte de fierté nationale, ce qui est quand même, dans le cas de l'Allemagne en plus, c'est un peu une réconciliation avec sa propre histoire aussi. C'est quelque chose quand même, et c'est pour ça que le geste de Merkel, à mes yeux, c'est quand même un geste extrêmement fort, et moi je suis persuadé qu'elle est déjà, au travers de ça, entrée dans l'histoire.
Alors, Louis-Michel nous expliquait à l'instant qu'il y avait évidemment les réfugiés politiques et puis les migrants économiques, pour simplifier un peu les choses. Catherine Vidal-Levendel, c'est vrai que les réfugiés qu'on voit, qu'on entend parler, ils sont jeunes, instruits, bien formés. Absolument. On comprend qu'ils vont vite s'intégrer à la vie économique allemande, puisque c'est en Allemagne qu'ils choisissent d'abord d'arriver et d'espérer arriver. Alors, finalement, il y a les réfugiés politiques d'un d'eux, et puis les migrants économiques de l'autre, qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, d'une part, l'Allemagne a depuis longtemps une politique plus ouverte avec la politique des permis à points pour l'accueil des non-européens sur le marché du travail. Il ne faut pas l'oublier, c'est une politique qui a été mise en œuvre à partir de 2005 pour accueillir les très qualifiés. Et je pense que Mme Merkel a compris que parmi ces demandeurs d'asile, il y a effectivement beaucoup de gens qui correspondent aux qualifiés, aux très qualifiés, notamment chez les Syriens. D'autre part, les Syriens, je dirais pas qu'en Allemagne on a l'habitude, mais on a les Turcs qui sont leurs voisins, si j'ose dire. Donc c'est une culture qui n'est pas complètement lointaine pour beaucoup d'Allemands, où les Turcs sont la nationalité de loin la plus nombreuse parmi les étrangers non-européens. Par ailleurs, l'Allemagne n'a pas le Front National. Elle a les militants néo-nazis, mais qui sont quand même beaucoup plus, moins marginaux que ce qu'on a aujourd'hui parmi les électeurs du Front National, et l'influence du Front National dans les sondages d'opinion comme on l'a en France, et puis la capacité, je pense, qu'a marqué Madame Merkel de s'éloigner d'une politique d'opinion, une politique qui consiste à regarder les sondages avant de déclarer ce qu'on va faire. Je pense que c'est un élan tout à fait particulier. Je reviendrai aussi sur le clivage Est-Ouest, qui n'est pas uniquement un clivage Est-Ouest, parce qu'il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni est très hostile aujourd'hui à l'accueil des demandeurs d'asile. Ça a été
comme
exprimé.
L'Irlande et le Danemark.
Exactement.
Qui sont trois pays qui sont en dehors des conventions européennes.
De Schengen, tout à fait. Donc on n'a pas seulement les pays de Visegrad, comme on dit, qui ont été énoncés tout à l'heure, mais on a aussi un bloc de l'ouest de l'Europe hostile à la politique de solidarité pour l'accueil de ces réfugiés, des crises qui nous entourent.
De l'Europe, réfugiés, migrants, le défi de l'Europe. Je vous présente rapidement nos invités, Catherine Vidal-Levendel, Pierre-Henri, Louis-Michel, Henrik Guterwede. On a noté une réticence des États, ou de certains États, vous veniez de l'évoquer, Catherine Vidal-Levendel, mais il faut noter aussi, un peu partout en Europe, des élans de solidarité, et Maria Afonso nous les raconte.
Les initiatives solidaires se sont multipliées en Europe. En France, une application baptisée Comme à la maison, une sorte de Airbnb pour les migrants, lancée sur le modèle de la plateforme allemande Bienvenue aux réfugiés. Ce site met en relation des hôtes et des migrants. Le placement se fait sur la base du bénévolat et de nombreuses familles ont déjà offert leur hospitalité, comme l'explique le cofondateur du site Comme à la maison, Nathanaël Moll.
C'est absolument incroyable. On a reçu plus de 1300 propositions. On a des gens qui nous proposent leur chalet, leur maison secondaire. Et à côté de ça, on a des personnes qui nous disent, voilà, moi j'ai une chambre, un salon où on a des agriculteurs, on a des cadres, On a vraiment des personnes qui viennent de tous les secteurs de notre société.
En Espagne, les villes s'organisent. Madrid a annoncé qu'elle s'associait à Barcelone pour former un réseau de villes afin d'aider les réfugiés qui arrivent actuellement dans l'Union européenne. Depuis les dernières élections, les deux villes sont dirigées par des conseils municipaux de gauche formés de membres de mouvements de citoyens. Barcelone a monté un réseau de, je cite, « villes refuges » afin de faire face à cette crise. La ville dispose d'une liste de familles prêtes à accueillir chez elle des réfugiés. Et Ada Colau, maire de Barcelone, entend ouvrir les portes de sa ville.
Pendant que les États se cherchent des excuses, nous, les villes, nous nous sommes organisés. En quelques jours, nous avons créé un réseau auquel s'ajoutent des centaines de villes en Catalogne et dans le reste de l'État. Face à ceux qui construisent des murs, dressent des barbelés, installent des clôtures de sécurité, de dissuasion, nous, nous avons un message. Réfugiés, soyez les bienvenus.
En Islande, ce petit pays de 330 000 habitants qui ne fait pas partie de l'Union européenne mais qui est membre de l'espace Schengen, eh bien en Islande, les habitants sont prêts à accepter davantage de réfugiés. Au départ, le gouvernement islandais avait annoncé son intention de recevoir 50 réfugiés syriens au titre des quotas. Mais les Islandais, eux, se sont mobilisés sur les réseaux sociaux. Tout est parti de l'appel d'une écrivaine sur Facebook. Elle a demandé aux Islandais de se manifester s'ils souhaitaient que leur pays accueille plus de réfugiés. Et ils sont plus de 14 000 à avoir répondu à cet appel, soit 4% de la population de cette île. Cette mobilisation a conduit le gouvernement de Reykjavik à revoir sa position. Pour la ministre des Affaires sociales, Aigle Arvadotir, cet accueil doit aller de pair avec l'intégration à la société islandaise.
Un grand nombre de personnes nous ont encouragés à faire mieux et cela m'a rempli d'optimisme. Nous ne prévoyons pas de construire de nouveaux camps de réfugiés. Nous voulons que les gens s'intègrent dans la société islandaise, qu'ils aient du travail, un logement, que leurs enfants aillent à l'école et soient invités à des fêtes d'anniversaire.
Pierre-Henri, on entend bien, on sent bien un enthousiasme, une émotion des populations un peu partout en Europe. Mais après, il faut gérer le temps, il faut que ça dure. Ça, c'est autre chose.
Oui, il faut que cette générosité elle s'inscrive dans un engagement durable. Et je salue, moi, toutes les initiatives qui fleurissent et qui consistent, par exemple, à vouloir accueillir un réfugié chez soi, mais attention à dépasser aussi l'émotion. Je rappelle que l'accueil des réfugiés, c'est d'abord une compétence qui relève de l'État. C'est à l'État d'organiser cet accueil avec, en mobilisant les énergies des collectivités locales, territoriales et des citoyens. On a parlé de la question de l'intégration. Oui, quand on pense à l'accueil, il faut penser aussi à l'intégration future. Je vois que l'Allemagne a déjà un plan d'investissement pour la création d'un certain nombre de classes d'adaptation pour les jeunes réfugiés. C'est formidable. Nous n'en sommes, par exemple, en France, nous n'en sommes pas là, parce que d'une certaine manière, nous avons eu une parole tiède sur cette question. Et nous sommes un peu en retard sur l'organisation. Je ne doute pas que cela arrive, mais ça suppose aussi des moyens financiers importants. L'Allemagne prévoit un plan d'investissement à hauteur de plusieurs milliards.
C'est vrai aussi qu'elle est en meilleure forme économique que la France.
Oui, alors ça, on pourrait discuter de la nature de l'économie, de la précarité qui y règne. Je pense aussi que la France, cinquième puissance du monde, a de quoi faire face à l'accueil de 30 000 réfugiés pour peu que l'on s'organise. Puis je rappelle aussi que cet accueil, il peut être temporaire. Il y a un débat que nous n'avons pas eu aujourd'hui en Europe autour de l'activation d'une directive de protection temporaire qui existe depuis 2001, qui avait été adoptée par les pays de l'Union à la suite du conflit des Balkans et qui prévoit un statut de 1 à 3 ans et le retour possible dans le pays d'origine pour dès lors que la situation serait revenue à meilleure fortune. Cette question-là peut aussi être posée. Elle n'est pas tabou. A priori, les personnes qui fuient la Syrie aujourd'hui, ce qu'ils ont aussi dans leur tête, c'est de retourner en Syrie si la situation revient rapidement à meilleure fortune. Donc toutes ces questions doivent être débattues. Et sur l'initiative citoyenne, il est important de coordonner tout cela dans des actions de parrainage, de tutorat, d'aide. Ce qui manque le plus aujourd'hui aux réfugiés qui vont arriver en Europe, c'est évidemment la maîtrise de la langue du pays d'accueil, mais c'est aussi un réseau social, parce qu'ils ont vocation à être dans l'autonomie. Tout ça, ce sont des défis qui s'organisent et nous avons besoin de la puissance publique.
La frontière extérieure de l'Union européenne ne peut pas concerner uniquement les États en première ligne. C'est Jean-Claude Juncker qui le disait il y a quelques jours. Comment sensibiliser les Européens à cette problématique des réfugiés et de cet exode ?
Il faut réviser le règlement Dublin.
En deux mots, expliquez. Dublin, Catherine Vittel de Vanden.
Alors Dublin, ça a été fait, d'abord il y a eu les accords de 90 sur la politique commune européenne de l'asile, pour faire en sorte que les gens ne fassent pas, comme on disait, leur marché entre différents pays européens en attendant le mieux-disant pour leur donner un statut de réfugié. Là-dessus, c'est rajouté sur la plainte d'ailleurs de beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui centrale et orientale, mais il y avait aussi l'Allemagne qui disait nous on reçoit l'essentiel, comme le disait l'Autriche, et donc on a dit eh bien on va dire que les pays qui reçoivent les demandeurs d'asile doivent également traiter la demande, ce qu'on appelle one stop, one shop. Ça a été décidé en 2003 le résultat de ce système, c'est que les pays qui sont sur les frontières extérieures de l'Europe, comme la Grèce, comme l'Italie, aujourd'hui ont dû recevoir et traiter la demande d'asile des arrivants, ce qu'ils ne font pas toujours. Ils ne tamponnent pas les passeports parce que les gens préfèrent rester incognito et aller dans le pays de leur choix. Donc ça fonctionne mal, ça va être redébattu prochainement.
Ça explique un peu l'embarras de la Grèce, de l'Italie, de la Hongrie, qui se sentent responsables et totalement dépassés par l'afflux. Pierre-Henri, Catherine
Vittel de Vanden. On peut juste dire une dernière chose, c'est que ça peut être peut-être aussi interprété comme un geste de Madame Merkel, si j'ose dire, à l'égard de la Grèce. Elle a été très sévère dans ses positions. Et donc là, d'une certaine façon, elle se fait généreuse à l'égard de la Grèce en disant « on va pas vous obliger à traiter la demande d'asile de tous ceux qui arrivent chez vous. Nous aussi, comme d'autres pays européens, on va prendre notre part en la matière ». Et vous ne serez pas obligés d'accueillir et de traiter tous les demandeurs d'asile qui aujourd'hui arrivent majoritairement par la Grèce.
Alors, il y a tout un débat évidemment très européen sur la remise en cause de Schengen. Un certain nombre d'hommes politiques en France et en Europe veulent remettre en cause l'idée de Schengen. Oui, Michel, alors est-ce que tout ce qui se passe en ce moment en Europe risque de remettre en cause l'accord de libre circulation des populations en Europe, ce qu'on appelle l'accord de Schengen ?
Mais non, je pense pas que ce soit ça. Ce qui a été dit par d'aucuns, personne ne remet en cause. Il y a peut-être l'une ou l'autre voix qui a parlé de ça, mais je pense que c'est pas... D'ailleurs, Juncker était très, très clair de ce point de vue-là, et il a raison. Il n'est pas question de remettre en cause Schengen à la libre circulation. Ce dont on parle, naturellement, ça c'est déjà une toute autre approche, c'est qu'il faut évidemment des contrôles aux frontières extérieures de l'Europe. C'est ça, en fait, qui a été évoqué. Et déjà, d'ailleurs, dans le cadre de Schengen, on peut déjà, les États membres peuvent déjà, dans des conditions particulières, renforcer leur contrôle.
C'était des renforcements de Frontex.
Par contre, je pense que Dublin doit être modifié, parce que le système de Dublin actuel, manifestement, ne marche pas.
C'est ce qu'a fait déjà Angela Merkel de fait.
Oui, en fait, oui.
De manière solitaire. La question n'est pas celle de la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen. C'est le règlement Dublin qui est inégalitaire. C'est aussi se poser la question de l'élargissement qui a été extrêmement rapide et irréfléchi. C'est l'absence de politique étrangère commune, de diplomatie commune. Et finalement, c'est le fait que aujourd'hui l'Europe est tout de même un peu un nain politique. Donc c'est de tout cela dont il faut discuter, en plus de l'harmonisation des règles du droit d'asile en Europe.
Louis-Michel, avec ce que l'on voit, ce qui se passe, ce que l'on vit en ce moment en Europe, est-ce qu'il y a ou non le risque d'un repli sur soi ?
Il y a toujours le risque d'un repli sur soi. Ceci étant dit, si l'on pouvait forcer des décisions d'une Europe plus intégrée sur ce terrain-ci, je crois que ça pourrait redonner un élan à l'Europe. Ceci peut devenir, dans le fond, une opportunité pour relancer l'idée européenne et plus d'intégration. Parce que dans le fond, on le voit sur le plan économique, on le voit sur le plan de la sécurité, on le voit sur le plan humanitaire, on le voit sur le plan social, etc. Le problème, c'est pas l'Europe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. Il n'y a pas assez d'intégration. Moi, ce que je crois, c'est que on va devoir activer beaucoup plus pour faire avancer à nouveau cette Europe. On va devoir activer beaucoup plus les coopérations renforcées, c'est-à-dire avancer, comme le disait Delors, avec ceux qui veulent avancer en attendant que les autres les rejoignent. Je crois que c'est la seule technique, parce que j'ai entendu l'un de vos participants parler d'un élargissement irréfléchi. Je n'irai pas jusque-là, mais il est clair que institutionnellement, l'Europe n'était pas et n'est toujours pas prête à cet élargissement important que l'on a connu.
Vous êtes prêt à reprendre dans votre voix les propos de Jean-Claude Juncker il y a quelques jours lors de son discours sur l'état de l'Union. Il n'y a pas assez d'Europe dans l'Union et pas assez d'Union dans l'Europe.
C'est exact. Je partage totalement ce point de vue.
Merci à tous les quatre, Catherine Vital de Vanden, Pierre-Henri, Louis-Michel, Enrique Dorvede. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Mathieu Salabert avec les moyens audiovisuels du Parlement européen à Strasbourg. Pour écouter cette émission et tout savoir sur nos invités, rendez-vous sur la page internet et sur les applis mobiles de RFI, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desescalou, que vous soyez en Europe ou ailleurs dans le monde, j'aurai plaisir à vous retrouver dimanche prochain. Dimanche, nous serons à Berlin pour les 10 ans au pouvoir d'Angela Merkel, décidément incontournable Angela Merkel. Au revoir.
Carrefour de l'Europe sur la radio mondiale.